La cité, espace politique. Vers 625, Dracon publie les premières lois à Athènes, jugées assez dures pour donner naissance au qualificatif de draconien par la suite. Puis, vers 594, Solon, connu par la conquête de Salamine, établit de profondes réformes. Répartition des citoyens en quatre classes établies sur la base du revenu de chacun, libération des charges qui pesaient sur les petits propriétaires terriens. C'est au cours d'une période de troubles que Pisistrate prend le pouvoir. Le tyran, avec ses deux fils, Hipparque et Hippias, achève de ruiner le pouvoir des nobles. Vers 507, les réformes démocratiques seront apportées par Clisthène. Création des dèmes, les circonscriptions. Réorganisation de la boulée, assemblée de 500 citoyens tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée générale des citoyens, l'Ecclésia. Les vrais changements sociaux et politiques se produisent avec la conquête d'Alexandre le Grand entre 336 et 323, qui agrandit le monde hellénisé, répand la pratique de l'esclavage et implante Grecs et Macédoniens au cœur de systèmes économiques différents.
Le saviez-vous ? Périclès, guerrier législateur. Périclès, qui meurt en 429 avant Jésus-Christ, exerce son pouvoir sur Athènes en qualité de stratège, de général entre 443 et 431. Il est réélu 15 ans de suite. Son œuvre législative comprend deux mesures essentielles. La loi sur la citoyenneté définit un citoyen athénien comme étant né de père citoyen et de mère fille de citoyen athénien. Une indemnité, le mistos, destinée aux membres des tribunaux populaires est instituée. De cette manière, même les pauvres peuvent assurer les fonctions de juge. Son montant est de 2 oboles, soit le tiers du salaire journalier. Toutefois, Périclès s'expose à la moquerie et aux caricatures féroces des auteurs comiques, comme Aristophane. Le peuple rit à gorge déployée, quand son crâne allongé est comparé à un oignon. Les rires redoublent quand, crâne d'oignon, prend son air le plus sérieux pour débiter un discours ennuyeux à mourir.
Être citoyen à Athènes. Paradoxalement pour nous, mais tout à fait conformément à l'idée grecque de la citoyenneté, les citoyens sont les moins nombreux face à la foule des non-citoyens, enfants, femmes, étrangers ou métèques, esclaves.
N'oubliez pas, la mère et l'enfant. Dans l'Antiquité grecque, les enfants sont du sang de leur père. La femme n'a servi que de vase pour les porter jusqu'à la naissance. Elle n'a donc aucun droit sur eux. Après la naissance, l'enfant est présenté au père de famille. S'il accepte de le reconnaître, il le prend dans ses bras et fait avec lui 3 fois le tour du foyer familial, consacré à la déesse Hestia. S'il refuse l'enfant mal formé, de sexe féminin, ou pour toute autre raison, le bébé est abandonné sur un tas de fumier où il meurt, à moins d'être récupéré par un marchand d'esclaves. À Sparte, la mère est invitée à précipiter elle-même dans un gouffre ceux qui ne feraient pas de bons guerriers, aptes à défendre la cité et à se reproduire.
Les citoyens forment environ 10% de la population et se distinguent par des conditions. Il faut être libre, né de père citoyen athénien et de mère fille de citoyen athénien, avoir 18 ans et avoir accompli son éphébie, service militaire de 2 ans, et être inscrit sur le registre de son dème, circonscription de naissance. Des devoirs. Il faut être prêt pour la guerre entre 18 et 60 ans, rendre un culte aux divinités Polyades, les dieux de la cité Polis, comme Athéna à Athènes, prendre part aux assemblées politiques, payer ses impôts, se marier et avoir des enfants. Des droits. Les citoyens sont électeurs et peuvent se présenter aux élections, intenter des procès, proposer ou amender les lois, réclamer une révision du montant de l'impôt et voter l'ostracisme, bannissement de 10 ans. La dure vie du Spartiate. Dans toute cité grecque, les hommes entre 18 et 60 ans sont avant tout destinés à la guerre, mobilisables en général à tout moment. Mais s'il est une cité où cet aspect prédomine, c'est bien Sparte. Dès la naissance, le Spartiate est traité en guerrier futur et commence un parcours du combattant. Cette organisation est mise en place par les lois de Lycurgue, réformateur du 8e siècle avant Jésus-Christ. Naître, c'est d'abord survivre. À peine né, le bébé est amené par son père au conseil des anciens, la Gérousia. S'ils estiment l'enfant bien formé, il vivra. Sinon, il sera jeté dans un gouffre. Une première sélection est faite par les femmes. Le bébé est lavé au vin au lieu d'eau. S'il se débat, à des convulsions que le vin pur est supposé révéler, il finit au gouffre. Cette sélection précoce, monstrueuse à nos yeux, est parfaitement justifiée aux yeux des Spartiates. L'enfant est avant tout celui de la cité de Sparte avant d'être celui de ses propres parents. À ce titre, son devoir essentiel est de prendre les armes pour la défendre. S'il est dans l'incapacité de le faire, il n'a plus de droit véritable à l'existence. L'éducation spartiate ou l'art du dressage. Jusqu'à 7 ans, l'enfant est confié aux femmes qui doivent lui apprendre à ne pas pleurer, ne jamais se plaindre, se nourrir de ce qu'il trouve, fortifier son amour de Sparte. Puis vient l'éducation militaire. Louveteau, de 8 à 11 ans, garçon de 12 à 15 ans, puis Irène, de 16 à 20 ans. Les jeunes Spartiates vivent entre eux en groupe ou troupeau de l'âge de 12 ans à 30 ans. À partir de cet âge, un homme peut prendre ses repas et dormir chez lui. Physiquement très entraîné, le Spartiate apprend à peine à lire et à écrire. En revanche, son éducation musicale est plus poussée, mais toujours dans une finalité militaire. L'armée évolue au son de la musique. Pour les jeunes filles également, un corps robuste est indispensable pour donner naissance à des garçons bien formés. Elles pratiquent donc la gymnastique et des rudiments d'art du combat pour être prêtes à défendre la cité en cas de besoin. La dureté de l'éducation spartiate prépare aux plus grands sacrifices. Ainsi, pour permettre aux cités grecques de préparer leur défense, le roi de Sparte, Léonidas, avec seulement 300 guerriers, tient tête à toute l'armée perse dans le défilé des Thermopyles. Leur sacrifice permettra aux Grecs de lever des forces nouvelles et de repousser Xerxès Ier et ses troupes au début du 5e siècle avant Jésus-Christ.
Un peu de technique. Pas vu, pas pris. À partir de 12 ans, le jeune Spartiate est un païs, ou garçon. Il vit en bande, soumis à un chef plus âgé. Pour tout vêtement, un seul manteau, volontairement trop court ou pas assez épais pour l'hiver. La nourriture est soigneusement rationnée pour l'empêcher de manger à sa faim. Il doit donc se débrouiller, c'est-à-dire voler des aliments dès que l'occasion s'en présente. Pris sur le fait, il est battu, puis violemment fouetté. Ne vous y trompez pas. Il n'est pas puni durement pour avoir volé, mais pour s'être laissé prendre. Aucun habitant de Sparte ne lui prêtera aide et assistance, ne lui fournira nourriture ou vêtements. Ce serait en faire un être faible, semblable aux femmes, incapable de survivre par lui-même. L'une des épreuves du service militaire, l'Irénie, consistait même à tuer dans la campagne un ilote, un esclave, sans se faire prendre.
L'Empire d'Alexandre, 356-323. Alexandre, qui voulait un empire universel, l'étendit jusqu'en Asie mineure et en Égypte, mais son armée s'arrêta au bord de l'Indus et refusa de le suivre plus loin. Entre-temps, il aura fondé 70 villes en Orient, ce qui explique l'importance de l'hellénisation, c'est-à-dire de la diffusion de la culture grecque. Sa mort soudaine et à un jeune âge l'empêche de réaliser une parfaite fusion entre le monde grec et le monde barbare. La brièveté de son existence rend encore plus impressionnante la liste de ses exploits. Il naît en 356 avant Jésus-Christ, de l'union du roi Philippe II de Macédoine et de la reine Olympias. Dès son enfance, sa mère lui révèle qu'il est le fils d'un dieu qui s'est uni à elle en empruntant la forme humaine de son époux. À 13 ans, il dompte le cheval Bucéphale car il a remarqué que l'animal a peur de son ombre, ce qui le rend ombrageux. En 340, à 16 ans, il assume la régence de Macédoine pendant que son père guerroie en Grèce. Deux ans plus tard, lors de la bataille de Chéronée, Alexandre, à la tête de la cavalerie macédonienne, écrase l'armée de Thèbes. En 336, Philippe II est assassiné et Alexandre devient roi de Macédoine. Un an plus tard, il prend et rase Thèbes. Entre 334 et 331, Alexandre passe avec son immense armée composée de 35 000 hommes en Asie mineure, en Turquie actuelle, et écrase l'armée du roi de Perse, Darius III. En 326, il atteint la vallée de l'Indus, au nord de l'Inde, mais l'armée refuse de le suivre plus loin. Le 30 mai 323, Alexandre, de retour de Babylone, tombe malade et meurt le 10 juin.
Le saviez-vous ? Trancher le nœud gordien. Gordion était une cité considérée comme la clé de l'Asie. En 333, l'armée d'Alexandre y passe l'hiver avant de reprendre les combats au printemps. Curieux de tout, Alexandre y visite le temple local de Jupiter. Les prêtres lui montrent le char du père du roi Midas, Gordios. Sa particularité est que le joug en est formé d'une série de nœuds, très serrés, très enchevêtrés. La légende prédisait que celui qui parviendrait à les dénouer serait maître de l'Asie. Après un examen attentif, Alexandre sort son épée et tranche le joug. 2 ans lui suffiront à réaliser la prophétie. Dans la langue courante, nous avons conservé l'expression « trancher le nœud gordien » pour indiquer une solution simple à un problème compliqué.
La Grèce hellénistique. Pendant une période qui va durer 2 siècles, la civilisation de la Grèce est dite hellénistique. La langue écrite grecque, la koiné, se forme et se substitue aux anciens dialectes, créant ainsi une unité linguistique. Elle est utilisée jusqu'au fond de l'Asie, et sa force unificatrice peut être comparée à celle qu'eut, dans l'Allemagne du XVIe siècle, la langue de Luther. Cet héritage hellénistique ne prendra fin qu'en 641 après Jésus-Christ, avec la conquête arabe. Toutes les époques qui lui succèdent voient en la Grèce l'expression la plus achevée de la civilisation. En se libérant de ses chaînes nationales, elle pose les fondements d'une culture universelle. La religion grecque. Sous leur forme humaine, non seulement les dieux grecs nous ressemblent physiquement, oui, enfin, presque, eux ont toujours des corps parfaits, sauf le forgeron Héphaïstos, mais ils ont tous nos défauts, amplifiés comme il se doit par leur statut divin. Ce qui nous sépare ? Dans la vie quotidienne, rien, ou presque, mais ils ont tout de même un avantage impossible à combler, ils sont immortels. Pour les Grecs, tout commence avec le chaos, lieu indéterminé où existent, en attente de se révéler, les forces qui donneront naissance aux premières divinités et à la vie. Pour les dieux primordiaux, les relations père-fils sont difficiles. Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel étoilé, s'accouplent. Leur fils Cronos, le temps, émascule son père et le remplace comme roi des dieux. Il épouse sa sœur Rhéa. Seulement, Cronos est méfiant. Il est bien placé pour connaître la tragédie familiale. S'il a un fils, ce dernier le tuera pour prendre sa place. Un moyen efficace est vite trouvé. Il dévore ses enfants à la naissance, les avalant d'une seule bouchée. Rhéa laisse faire les 5 premières fois, puis au 6e enfant, Zeus, elle donne une pierre enveloppée de l'ange à Cronos qui l'avale aussitôt. L'enfant est confié à une nourrice et caché. Le panthéon grec. Le panthéon des dieux grecs compte de nombreux dieux et déesses. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, est la fille de Zeus, ou, selon une autre version, née de l'écume de la mer. Elle est la mère d'Eros. Apollon, fils de Zeus et de Leto, est le dieu de la musique, de la poésie et de la divination. Il représente un idéal de beauté masculine. Arès, dieu de la guerre, est le fils de Zeus et d'Héra. Il est le père présumé de Romulus et de Rémus. Artémis, sœur jumelle d'Apollon, est la déesse de la lune et de la chasse. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, sortie armée du cerveau de Zeus. Cronos, l'un des titans, est le dieu de l'agriculture et des récoltes, et le père de Zeus. Dionysos, dieu de la vigne et du vin, est le fils de Zeus et de Sémélé. Héra, déesse souveraine de l'Olympe, fille de Cronos et de Rhéa, est la sœur et épouse de Zeus. Elle est la protectrice des femmes. Hermès, messager des dieux, fils de Zeus et de Maïa, est le protecteur du commerce et des voyageurs et le patron des voleurs. Hestia, déesse du foyer et sœur de Zeus. Dans son temple brûlait un feu sacré entretenu par les Vestales. Les Lares et les Pénates sont les dieux du foyer domestique. Les premiers gardaient la maison et les seconds le garde-manger. Poséidon, dieu de la mer, est le frère de Zeus. Zeus, maître des dieux de l'Olympe, fils de Cronos et de Rhéa, est le dieu du ciel et des phénomènes célestes. Les enfers. Les enfers grecs sont le séjour de tous les morts qui communiquent avec notre monde par des grottes. Les enfers sont partagés en trois parties. L'Érèbe est le lieu de passage ou de séjour de toutes les âmes qui y pleurent en permanence, regrettant éternellement la vie perdue. Le Tartare est une vaste prison, entourée d'un triple mur d'airain où sont punis ceux qui ont offensé les dieux et particulièrement Zeus. Les Champs-Élysées étaient à l'origine le paradis des guerriers morts au combat, puis lieu de félicité pour les âmes méritantes. Attention, il ne faut pas comprendre « mérite » au sens chrétien du terme. Les élus n'y sont pas parce qu'ils se sont bien conduits, mais parce qu'ils ont été célèbres, utiles à leur communauté et au monde grec.
N'oubliez pas, une funeste escroquerie. Les dieux s'ennuient, l'Olympe manquant de distraction. C'est pour remédier à cela et créer une animation amusante que Zeus crée les animaux et l'homme, mais pas encore la femme. La vie des hommes est rude. Ils ne connaissent ni élevage, ni agriculture, ni feu. C'est un choix des dieux. Ils veulent bien des hommes faits à leur ressemblance, mais sans leur intelligence. Ceci chagrine Prométhée, fils du titan Japet, qui avait servi Zeus dans les combats contre les autres titans. Par ruse, il dérobe le feu dans l'atelier du dieu forgeron Héphaïstos et parvient à connaître le secret de l'intelligence détenu par la déesse Athéna. Il en fait cadeau aux hommes. Furieux, Zeus le punit cruellement. Prométhée est enchaîné sur le mont Caucase, et un aigle, ou un vautour, vient chaque jour lui dévorer le foie qui repousse, afin que le supplice se poursuive éternellement. Selon un autre mythe, Prométhée aurait fabriqué le premier homme avec de l'argile. La déesse Athéna lui donne la vie. Mais ce premier homme ne sait rien faire. Prométhée lui enseigne donc tout. Élevage, agriculture, écriture, médecine, tous les arts. Il finirait par devenir un rival pour les dieux eux-mêmes. Pour les apaiser, Prométhée institue le sacrifice, une offrande faite aux dieux pour les honorer.
Les enfers comptent 5 fleuves. L'Acron, fleuve de l'affliction et de la douleur. Le Cocyte, fleuve des gémissements. Le Styx, fleuve des serments irrévocables. Le Léthée, fleuve de l'oubli. Le Phlégéton, fleuve de feu. Les enfers sont aussi peuplés de monstres variés. Faisons connaissance, prudemment, avec quelques-uns d'entre eux. Cerbère est un chien à 3 têtes, gueule effroyable et queue de dragon. Il empêche les vivants d'entrer et les morts de sortir, exception faite pour Orphée, Hercule, Psyché, Ulysse et Énée. Charon, le vieux nocher ou passeur d'âme. Contre une pièce de monnaie, l'obol, il leur fait franchir le fleuve Achéron qu'ils ne pourront jamais plus franchir dans l'autre sens. Si une âme proteste ou se plaint trop amèrement durant la traversée, elle est jetée par Charon dans les eaux du fleuve où elle se dissout. Charon est impitoyable pour celles qui ne peuvent payer, condamnées à errer éternellement sur la rive. C'est pourquoi les parents des défunts doivent déposer une pièce sur une paupière, le front ou les lèvres du mort. Les Érinies sont un groupe de 3 sœurs, Alecto, Tisiphone, Mégère, née du sang répandu sur terre quand Ouranos fut émasculé par son fils Cronos. Leur nom, qui signifie les bienveillantes, est destinée à les apaiser car, armées de torches et de fouets, elles poursuivent de leur vengeance implacable tous les auteurs de crimes. Après ces épreuves, l'âme du mort comparaît devant un tribunal composé de trois juges, Rhadamante, Minos et Éaque, qui écoutent son plaidoyer puis décident de l'envoyer au Tartare ou aux Champs-Élysées. Orphée et Eurydice. Haute en couleurs, la religion grecque a donné naissance à de nombreux mythes. Il est impossible ici de les relater tous alors qu'ils ont fondé notre culture. Toutefois, certains ne peuvent être ignorés, à commencer par l'éclatante preuve d'amour d'Orphée et Eurydice. Aède, poète, chanteur et musicien, Orphée s'accompagne de la lyre aux accents si mélodieux que nul n'y résiste. Homme, femme, dieu, bête, y compris les serpents, et plantes, tous sont sous le charme. Il s'éprend de la belle nymphe Eurydice, divinité mineure des sources et prairies humides, et l'épouse. Hélas, au cours d'une promenade, elle est mordue par un serpent venimeux et meurt. Parti à sa recherche, Orphée la retrouve, la perd de nouveau, la retrouve enfin, mais morte. Désespéré, il parcourt la terre qui retentit de la douleur de ses chants. Puis il décide d'aller aux enfers pour reprendre la femme aimée. L'épreuve suprême consiste à fléchir un terrible couple, Hadès, dieu du monde infernal, et son épouse Perséphone. Ému par son chant, il lui accorde le retour d'Eurydice dans le monde des vivants, mais à une condition. Sur le chemin du retour, il ne devra jamais se retourner pour la regarder. Cependant, il le fait, et Eurydice disparaît pour toujours. Le chant désespéré d'Orphée exaspère les Ménades, prêtresses de Dionysos, dieu du vin, qui le lapide. Son âme descend aussitôt aux enfers, où elle rejoint enfin celle d'Eurydice. Tantale, un vrai supplice. Tantale, roi de Lydie, était un favori des dieux, invité souvent à leurs banquets. Il finit par se croire leur égal et, pour prouver qu'il ne pouvait tout savoir, tua son fils Pélops en secret et offrit sa chair cuisinée à un banquet offert aux dieux qui la refusèrent. Zeus le punit en l'expédiant au Tartare et en lui imposant un triple supplice. La soif, Tantale se baigne dans une eau fraîche et délicieuse mais ne peut en boire alors qu'il meurt de soif. Dès qu'il tente de la porter à ses lèvres, elle devient du sable. La faim, il ne peut saisir aucun fruit qui pousse sur les arbres alentour. Dès qu'il approche la main, le vent fait s'envoler le fruit convoité. L'angoisse. Au-dessus de sa tête, un énorme rocher menace de l'écraser à tout moment.